Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et tout de suite, Rebelle en campagne.
Sud Radio, présidentielle 2022.
Éric Rebelle, bonjour.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Alors chaque matin, Éric Revelle qui prend un sujet de cette campagne électorale ou un fait en tout cas autour de cette campagne. Alors là, il y avait Manuel Valls qui a été notre invité exceptionnel depuis 8h15 ce matin pour vraiment traverser en fait à la fois la gauche et revenir aussi sur la droite et Éric Zemmour. Zemmour qui tente l'union des droites, hein, Éric Revelle, son mouvement politique Reconquête pourrait être le trait d'union de cette reconstruction à droite ou pas ?
Oui, oui, alors il pourrait l'être, mais quand j'écoute Manuel Valls, si vous me dites que Zemmour peut être le trait d'union à droite,
ouais.
C'est très clair ce matin, depuis ce matin, et de plus en plus, Manuel Valls, lui, il veut être le trait d'union à gauche. Et je vous en parlerai à la fin de ce papier, parce que Zemmour, effectivement, est en train de vouloir démontrer qu'une union des droites serait en marche. Le ralliement, vous l'avez noté, du LR Guillaume Pelletier, puis du patron des députés européens, Jérôme Rivière, l'ex-RN, donc, et de quelques autres, hein, ces ralliements médiatisés, sont les signes, évidemment, que l'ex-polémiste Zemmour est en train de donner raison au candidat Zemmour. L'union des droites, théorisée par Patrick Buisson, l'ex-mentor de Nicolas Sarkozy, vous en souvenez, eh ben serait en marche effectivement, et le parti Reconquête de Zemmour serait le trait d'union pour reconstruire toute la droite.
Alors Zemmour étant stratège quasi-militaire, c'est ça, et expert de l'histoire, en train d'encercler à droite alors ?
Ah oui, 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 moi je fais un parallèle. Zemmour, admirateur de Napoléon, tente un encerclement des droites, évidemment. Il a d'abord, vous en souvenez, il a d'abord débordé Marine Le Pen sur sa droite, sur le champ de bataille politique, en décentrant aussi, si j'ose dire, le centre de gravité politique des LR vers la droite également. Ben Zemmour, dans une sorte de guerre éclair, veut passer en vainqueur son pont d'Arcole politique. Alors, vous me direz, bon, Guillaume Pelletier, l'opportuniste, ou Jérôme Rivière, ex-RN, sont un peu légers pour incarner les maréchaux de empereur. Et puis Zemmour, à ce stade, compte bien peu de ralliements de poids pour faire aboutir cette stratégie dont vous parliez, Patrick, cette stratégie de mouvement politique. Mais l'union des droites donne vraiment l'impression de progresser sur le terrain et parfois d'ailleurs dans l'esprit de certains LR.
Oui, c'est ça. Alors aussi, il faut des thèmes en fait de campagne. Il y a l'immigration. Les chiffres d'ailleurs de l'immigration sont tombés pour 2021. Et pour l'exécutif, pour Emmanuel Macron, bah, ils ne sont pas fameux, hein.
Ah bah oui, oui, alors Zemmour, bon, aux prises avec la justice, on le sait, Zemmour radical sur le thème de l'immigration, on le sait aussi. Les chiffres 2021, je vais en prendre trois, ils ont été publiés hier, 52 000 migrants ont tenté de franchir la Manche depuis la France, bon. Les naturalisations sont en hausse de 50%, indiquent ces chiffres du ministère de l'Intérieur, à 94 000 en 2021. Et puis, 270 000 nouveaux titres de séjour ont été délivrés, évidemment. Ces chiffres tombent bien mal pour Emmanuel Macron, dont on dit qu'il pourrait prendre la parole sur ce thème de l'immigration dans quelques jours. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mon cher Patrick, Manuel Valls, Zemmour, Marine Le Pen veulent seulement exploiter les craintes et les peurs des Français, a dit l'ex-premier ministre socialiste. Bon, mais les chiffres sont têtus, les chiffres sont là, notamment sur la question de l'immigration. Alors, Zemmour, Napoléon unificateur des droites, Austerlitz ou Waterloo politique. En tout cas, Zemmour aura décomplexé la droite en plaçant sur la table des thèmes que la droite républicaine n'osait plus aborder. Et je vous le dis comme je le pense, quand j'écoute Manuel Valls, je me dis, Manuel Valls est sur le point également de décomplexer la gauche. Valls, Zemmour de gauche, on verra.
Et on va continuer d'en débattre avec vous, Éric Revelle, vous au 0826-300-300 et Thierry Guerrier qui est avec nous. On pose une question ce matin d'ailleurs à propos d'Éric Zemmour. Des cadres du Rassemblement National, vous l'avez dit, Éric Revelle, passe chez Éric Zemmour. Et quel est votre avis sur le sujet ? Est-ce que c'est un coup dur pour Marine Le Pen ? Est-ce qu'il n'y a aucune conséquence au Rassemblement National ? Ou est-ce que c'est une belle prise pour Zemmour ? Ou sans avis, eh bien vous dites à 51% que c'est une belle prise pour Zemmour, et derrière, c'est un coup dur pour Marine Le Pen à 23%. Il y a Jackie, par exemple, qui dit « Manifestement, Zemmour sait convaincre. Avec les élucubrations de ce gouvernement et l'entrée en fanfare de Macron à la présidence européenne, sa tâche est aisée, en fait, à ce niveau-là. » Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Revelle et Thierry Guerrier ?
Bah, écoutez, en tout cas, on en parle médiatiquement. Alors, je suis pas certain que tout le monde connaissait Jérôme Rivière, le patron des députés européens du Rassemblement national à Strasbourg. Mais c'est vrai que Zemmour, il met ses petits cailloux sur la route de l'union des droites. C'est très très clair. C'est quelque chose qu'il a théorisé en 2019.
L'union de certaines droites, quand même, non ? Parce que c'est
l'union
c'est
plus... de certaines droites. Non, mais dans l'union des droites, alors suivant comment vous vous positionnez sur l'échiquier politique, vous pouvez dire c'est jusque et y compris l'union des droites nationales ou jusque et y compris l'union de l'extrême droite. Mais en tout cas, ces petits cailloux qu'il place sur le chemin de la reconquête politique, c'est très clairement pour signifier que ce qu'il a théorisé, ce que Patrick Buisson a théorisé, l'ex-mentor de Nicolas Sarkozy, comme je le disais il y a quelques instants, pour Zemmour, en tout cas, est en marche. Alors, Guillaume Pelletier, il était peut-être plus médiatisé, mais avait peut-être moins de poids dans l'appareil DLR. Mais en tout cas, voilà des prises qui montrent que Zemmour est en train de tenter cette manœuvre d'encerclement de l'ensemble de la droite républicaine ou nationale. Patrick, appelez-la comme vous voulez.
Oui, Thierry Guerrier.
Je crois qu'Éric Revel a raison. Il y a un dessin politique à l'œuvre, inspiré notamment par Patrick Buisson. Mais Éric Zemmour n'a pas besoin d'inspirateur. Il était sur cette ligne depuis toujours, notamment dans ses éditoriaux. Il y a en effet... la question, c'est, au fond, pour qui roule Zemmour ? Un Zemmour à 12%. Il plafonne en ce moment à ses 12-13%. À qui cela va-t-il profiter ? À Valérie Pécresse ? Sans doute en partie, si ça lui permet à elle d'être présente au second tour. Alors en effet, tout est possible, y compris battre Emmanuel Macron. Mais à l'inverse, si elle n'arrive pas à se hisser devant Marine Le Pen, est-ce que le travail, j'allais dire buissonien, zémourien, que décrivait très bien l'instant Éric Revel, d'une capacité à faire le lien, permettrait finalement l'impensable pour beaucoup de Français qui serait l'élection de Marine Le Pen ? Cette question est posée.
Oui, allez, on va y revenir dans un instant. Vous pouvez réagir 0826-300-300. Vous avez peut-être entendu Manuel Valls tout à l'heure, alors qui voudrait être un trait d'union, dit-il, finalement, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Bah non, mais ça va revenir, en fait, à ce qui a été dénoncé par Marine Le Pen à un temps donné, qui était l'UMPS, souvenez-vous, effectivement. Donc, c'est la même chose, quoi. Et c'est ce que disent beaucoup, d'ailleurs, y compris, en fait, dans le camp de Marine Le Pen, dans le camp aussi d'Éric Zemmour. Macron et Pécresse, ce serait la même politique. Qu'est-ce que vous en pensez, 0826-300-300? Et puis, si vous voulez réagir aussi sur le pass vaccinal, on a encore quelques minutes avec vous. 0826-300-300, Thierry Guerrier et Éric Revel sont là aussi pour vous répondre. Vous savez que le pass vaccinal, aujourd'hui, va être examiné par le Conseil constitutionnel. Ouais. Est-ce qu'il pourrait être retoqué sur certains points?
Est-ce qu'il va
vraiment servir à quelque chose encore? Là, en tout cas, quand on parle aussi de la levée de quelques mesures, vous nous dites non mais c'est une blague, en fait, c'est ça. Vous n'avez pas complètement tort. Mais enfin, nous, on est factuel, on pose des questions.
Allez, à tout de suite, 9h17.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h19, les grands débats, 9h20 maintenant, avec Éric Revel ce matin et Thierry Guerrier. Et vos appels, comme tous les jours, au 0826-300-300. Et dans quelques instants, dans une petite dizaine de minutes, est-ce que l'on risque de manquer d'électricité en France? Vous pouvez d'ores et déjà aussi
un
vous
jour
inscrire.
En France, ouais. C'est un vrai souci.
Vrai sujet,
et on ne s'en rend pas compte, sauf quand ça nous arrive, on dit il va y avoir en fait des périodes peut-être un peu de délestage, qu'on ne sait pas aussi vers quelle énergie on va aller. On verra tout ça tout à l'heure. Juste d'un mot avant de continuer sur la politique, là, quand même, Éric Revel, Thierry Guerrier, le pass vaccinal, là, qui devrait entrer en application la semaine prochaine, ça va servir à quelque chose, compte tenu de ce qui se passe?
Non, mais ça fait rire Éric, mais il a peut-être raison, d'ailleurs, parce que, au fond, on se dit, ce que nous a dit hier le Premier ministre, tout de même, c'est qu'en gros, à partir du 16 février, relâchement complet, c'est fini, ce serait la sortie du tunnel. S'il n'y a pas un nouveau variant, on entend parler du BA2, enfin, j'ai pas très bien noter le nom exact de ce nouveau variant qui est suivi de près par les épidémiologistes. Bon, mais l'idée là, on voit bien tout de même qu'il pourrait se passer une bascule complète psychologiquement d'un pays qui tout d'un coup, à partir du 7 février, considérerait que ça y est, on est sorti d'affaires. Si c'est le cas, on n'en parlera même plus dans 15 jours. Tout ça pour ça, c'est
Éric Revel ?
Bah, écoutez, moi j'ai le sentiment qu'il fallait absolument pour ce gouvernement et pour Jean Castex justifier la mise en place du pass vaccinal. Tout à l'heure, j'ai écouté Manuel Valls qui, à propos de la fameuse petite phrase de Jean Castex, oui. Ce variant est beaucoup plus dangereux mais moins sévère, très confraternellement, l'ancien oui, premier ministre socialiste a dit c'est un lapsus. C'est un lapsus. Mais pardon, cher Manuel Valls, mais un lapsus, c'est toujours révélateur. Donc ouais. C'est révélateur de quoi, ce lapsus? Bah, c'est révélateur du fait que mordicus, le gouvernement Emmanuel Macron, dit il faut mettre en place ce pass vaccinal coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et du coup, bah, même si l'épidémie ralentit fortement et on s'en réjouit tous pour le moment, eh ben le gouvernement s'entête et met en place ce pass vaccinal. C'est ça la réalité. Vous imaginez s'il avait dû en race campagne dire bon, bah, finalement, comme là on a encore beaucoup de contamination, mais la réanimation continue de décroître, on va pas le mettre en place le pass vaccinal. Ça aurait été terrible. Et puis juste, il faut aussi dire ce qu'a dit le Premier ministre. Si ça s'améliore, on le supprimera peut-être. Si ça s'améliore moins, on le remettra peut-être en place. Enfin, voilà, on est toujours dans cette situation complètement ubuesque, confuse. Mais je crois que, voilà, il pouvait pas se déjuger, ni Jean Castex, ni Emmanuel Macron ne pouvaient se déjuger face à ce pass vaccinal qu'ils ont souhaité mettre en place depuis longtemps.
Ouais, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce pass sanitaire tel qu'il a été mis en place, dans un premier temps, on pouvait comprendre, évidemment. Mais aujourd'hui, quand vous allez, en fait, dans un café, ou quand vous allez dans un restaurant, et qu'on vient vous demander si vous avez votre pass, vous demandez à quoi ça sert. Vous ne demandez pas à quoi ça sert. Alors, vous savez avec qui vous allez, en fait, déjeuner, etc.
Ce qui ne nous empêche pas d'être positif.
Non, mais je vous demande. Non, mais bien sûr. Donc, oui, vous enfin, dites, à quoi ça sert aujourd'hui?
Je suis d'un vrai à nouveau de jouer le rabat-joie. Mais enfin, d'où venons-nous? Il faut se souvenir de quel moment
mais
où il est conçu.
Où allons-nous?
Ça veut dire qu'il y a en politique, le temps est long, c'est compliqué. Et en effet, ils ont l'air, les Castex et autres, un peu ridicules maintenant. Alors qu'on nous dit, depuis quoi? Depuis trois jours seulement. On nous dit ça va beaucoup mieux. Et au fond, les modèles mathématiques nous permettent de mesurer qu'à partir de la mi-février, on va en sortir. Ok, mais il y a deux mois, il y a 15 jours encore, les médecins nous disaient on n'en peut plus. Donc, il faut comprendre que les mesures sont longues à mettre en place et elles deviennent parfois obsolètes et parfois ridicules.
Il y a toujours des gens à l'hôpital.
C'est le temps politique, c'est exactement. Et il y a toujours encore.
Non, mais ça, c'est vrai. Frédéric Amnet, qui était avec nous, il nous le disait en fait tout à l'heure. Oui, mais pour certains, pour rien, parce qu'il n'éternue même pas.
Mais bon,
après.
Mais
après, évidemment, ce qui est assez incompréhensible, c'est que pour certaines
vous
personnes,
vous avez entendu tout à l'heure le professeur d'Avicenne qui nous disait que c'est peut-être le virus le plus contagieux de toute l'histoire.
Ah bah de toute l'histoire.
Il y a deux ans, on ne connaissait rien de tout ça.
Éric Revel.
Et puis oui, phrase clé aussi du discours de Jean Castex hier, vous savez... On accroche au revers du veston national français le fait qu'on n'ait pas fermé les écoles, on accroche ça comme une sorte de décoration suprême. Et il a eu cette phrase magique, Jean Castex, il a dit « Mais quelles auraient été les conséquences si on avait fermé toutes les écoles ?» Bah, je vais en donner une conséquence à Jean Castex, puisqu'il n'a pas osé les formuler. L'une des conséquences aurait été que si on fermait toutes les écoles au moment où on a peur de ce virus Omicron, bah, il aurait fallu que les parents restent à la maison. Et donc, les parents qui restent à la maison, c'est l'économie qui tombe en panne.
À l'arrêt.
Et si l'économie tombe en panne, on rebascule dans la récession. Et là, évidemment, pour Emmanuel Macron, qui cherche la bonne fenêtre de tir pour se déclarer candidat, ça devenait absolument impossible.
Enfin, Eric, c'est d'abord pour les Français que ce serait été un problème.
Oui, mais l'une des conséquences, c'est de remettre en botte la croissance économique. C'est de remettre en botte la croissance économique où Emmanuel Macron va avoir besoin d'un tremplin. Et évidemment, mais vous pouvez pas vous trouver en récession économique.
Mais vous êtes un bon journaliste économique, vous savez donc d'abord, et vous êtes vous êtes un des partisans d'une économie dynamique, libérale, et vous êtes tout de même pas de ceux qui pensent qu'il faut en effet voir notre économie péricliter. Donc c'est d'abord le service de l'économie de la France qui est en jeu, avant même de savoir si c'est un calcul pour Emmanuel Macron.
Ouais,
non
Mais mon cher Thierry, vous avez été un bon journaliste politique, et vous devriez savoir que dans ces périodes électorales, le timing et la décision qui est prise sont évidemment très liés au contexte politique. C'est quoi le contexte politique?
Félicitons-nous que notre économie aille bien.
D'un mot pour conclure, parce qu'il nous reste deux minutes et ensuite nous avons évidemment notre sujet aussi dans présidentiel 2022. Est-ce que on risque de manquer un jour d'électricité en France, hein? Et ça fait partie de toute cette crise autour de l'énergie. Vous allez nous dire un mot, Thierry, parce que je sais que ça vous brûle effectivement sur les lèvres d'en parler.
Pour les
juste avant quand même la conclusion autour de Manuel Valls. On y reviendra, on débriefera d'ailleurs dans les vraies voix autour de Philippe David, Philippe Bilger ce soir. Mais il se situe où et que veut-il faire, selon vous, Manuel Valls, Thierry Guerrier?
Ah, Manuel Valls adore le pouvoir. Il a gouverné, il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre. Il aurait bien aimé qu'Emmanuel Macron leur donne des responsabilités. Aujourd'hui, il regarde l'échiquier politique, il a des valeurs, il a une vision de la politique, mais il a aussi un goût immodéré pour le pouvoir. Voilà. Et donc, il regarde l'échiquier, la façon dont les choses vont.
Il regarde Macron et il regarde Valérie Pécresse.
Éric a très bien souligné cette volonté de faire un choix.
Ouais, Éric Revel.
Bah moi je crois, si jouer un rôle de passerelle. Je me suis permis de faire une sorte de parallèle, comparaison n'est pas raison, mais Zemmour qui peut-être échouera, mais qui a cette tentation de reconstruire la droite et d'en faire l'union des droites. Moi quand j'écoute Manuel Valls ce matin à votre micro, mon cher Patrick, j'ai vraiment le sentiment qu'on a du mal à le situer, notamment à gauche, parce que précisément il est à la croisée de tous ces chemins-là. Donc Manuel Valls peut-être à la gauche ce que d'autres, Zemmour ou Ciotti, peuvent être à la droite. Je crois qu'on est en pleine reconstruction du paysage politique. Il y a une chose sur laquelle on peut être tout à fait d'accord avec Manuel Valls, c'est qu'on a besoin dans ce pays, pour canaliser les tensions politiques et sociales, on a besoin, pardonnez-moi, d'un affrontement classique droite-gauche. Le « en même temps », je pense, a hystérisé le débat, a semé des confusions sur des tas de sujets. On a entendu le président de la République nous expliquer qu'il fallait déconstruire l'histoire de France, puis quelques mois plus tard, qu'il s'inquiétait d'une racialisation de la société française. Ce « en même temps-là » nous a paumé, nous a excité, nous a hystérisé. Moi, je vote pour une chose en avril 2022, pour un bon vieil affrontement droite-gauche républicain sur les valeurs qui sont les nôtres. Voilà, à l'ancienne. Voilà.
Merci. On y reviendra dans les vraies voix ce soir, justement, entre 17h et 20h et 17h et 19h avec Philippe David autour de ces vraies voix du jour. Merci. Thierry Guerrier et Éric Revel. Thierry, vous vouliez dire un mot pour introduire notre sujet là, dans un instant.
Oui. N'oublions pas que la France avait depuis les années 70 un des dispositifs de production d'électricité, d'une électricité décarbonée extrêmement efficace, pilotée avec des professionnels de très haut niveau, la filière nucléaire notamment, mais aussi l'hydraulique par exemple. On a, avec une politique qui s'est vautrée dans les propositions européennes d'une dérégulation du marché de l'électricité, on est en train de défaire, de déconstruire notre système de production qui est un des meilleurs au monde. La réalité, c'est que EDF est obligé, pour des raisons politiques simplement, de racheter de l'électricité qu'elle a déjà vendue ailleurs et de le racheter évidemment cher. Oui, enfin, c'est délirant et on est en ça menace.
Allez, on va voir ça dans un instant et puis vos appels 0826 300.
Absolument. Est-ce qu'on risque de manquer d'électricité? C'est la question du jour. On vous attend au standard. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite ce matin des grands débats. Est-ce que l'on risque un jour de manquer d'électricité en France? Répondez à notre question du jour. Pour l'instant, vous nous dites oui à 75%. Nos invités ce matin pour en parler, Thomas Pellerin-Carlin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, spécialisé de politique européenne et d'énergie. Dans quelques instants, Corinne Lepage sera avec nous, ancienne ministre de l'Environnement et avocate et présidente du parti Cap Écologie. Mais qu'en est-il des propositions pour les candidats? Oui. Et c'est avec vous, Félix Mathieu.
Oui. Félix Mathieu, dans votre factuel ce matin, est-ce que nous pouvons encore produire assez d'énergie et bien sûr de l'électricité? C'est au cœur de cette campagne.
Oui, de cet affrontement entre pro et anti-nucléaire. Alors du côté des défenseurs de l'énergie nucléaire, on a le président Macron qui a annoncé 1 milliard d'euros d'investissement, notamment pour construire des SMR, des mini-réacteurs modulaires, des mini-réacteurs que Valérie Pécresse entend aussi développer. Elle défend l'énergie nucléaire, reproche même à Emmanuel Macron la fermeture de Fessenheim en 2020, décision qui en réalité, remonte au quinquennat Hollande. Valérie Pécresse promet de réinvestir dans les centrales existantes pour prolonger leur durée de vie. Lancer aussi 6 nouveaux EPR, relancer le projet Astrid, un réacteur de 4e génération. Posture très pro-nucléaire de Marine Le Pen. Également, construire 6 EPR, rouvrir Fessenheim, supprimer les éoliennes, dit-elle aussi. Hein, même posture anti-éolienne d'Éric Zemmour. Lui dit vouloir réaffecter tous les fonds de l'éolien à la géothermie, à la biomasse et aux pompes à chaleur. Enfin, le communiste Fabien Roussel entend lui aussi investir dans le nucléaire qu'il juge incontournable dans le mix énergétique pour atteindre la neutralité carbone.
Oui, et cette position franchement pro-nucléaire de Fabien Roussel, qui est loin d'être partagée à gauche.
Oui, à commencer par l'ancien allié du Parti communiste, la France insoumise propose au contraire de viser le 100% renouvelable, donc la sortie du nucléaire d'ici une bonne vingtaine d'années, tout comme Yannick Jadot d'ailleurs. 1% de risque nucléaire fera 100% de dégâts, écrit par exemple Jean-Luc Mélenchon dans une tribune. Même objectif, mais à un peu plus long terme, du côté d'Anne Hidalgo, faire du nucléaire une énergie de transition, avec pour objectif d'en sortir, je la cite, aussi rapidement que possible.
Merci à vous, Félix Mathieu, pour on y reviendra pour toutes ces propositions qui sont détaillées, et bien sûr, ça va beaucoup plus en profondeur. Mais avec vous, Thomas Pellerin, Carlin, déjà sur la question que nous posons, qui est un peu provoque, hein, bien sûr. Quoi. Est-ce qu'on manquera un jour, est-ce qu'on risque de manquer d'électricité un jour en France ? C'est pas aussi irréaliste, en fait, que ça, malheureusement.
Hein. Et assez proche.
Très clairement, donc là, effectivement, il y a un risque de manquer d'électricité durant le mois de février. Les situations à court terme, là, c'est vraiment, on dépend, en fait, si je puis dire, un peu du hasard, à quel point il fera froid cet hiver. À quel point est-ce que nous, collectivement, en France, on prendra des choix de peut-être réduire un tout petit peu notre consommation en février, faire quelques efforts citoyens et de bon sens. Et on va aussi dépendre des découvertes des ingénieurs de sûreté nucléaire. Est-ce que tous nos réacteurs sont capables de fonctionner pleinement ou pas ? On en a déjà qui sont à l'arrêt. Et là, vraiment, c'est à eux, hein, ingénieurs de sûreté nucléaire, de dire si on peut ou pas utiliser tel réacteur ou s'il faut l'arrêter pendant un temps. Pour le rénover, le
mettre à niveau. Quand on voit ça, on se dit, mais comment en est-on arrivé là ?
Manque d'anticipation.
Un manque d'anticipation complet. J'entendais votre chroniqueur avant critiquer à tort l'Europe sur la question du nucléaire. En vérité, si on veut chercher les vrais responsables, pour celles et ceux en tout cas qui auraient voulu redéployer pleinement le nucléaire, il aurait fallu s'y prendre dans les années 2000. Donc à partir du quinquennat Chirac ou Sarkozy, c'était déjà fini. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réatteindre le niveau de nucléaire qu'on a encore aujourd'hui. Là, sur le nucléaire, la France peut faire à peu près tout ce qu'elle veut, véritablement dans le cadre de l'Union européenne, il n'y a aucun problème là-dessus. Dans le meilleur des cas, en investissant vraiment pleinement dans le nucléaire, le scénario de RTE, qui est l'entreprise publique française de transport d'électricité, nous dit en installant 14 réacteurs EPR, 14, comme celui de Flamanville, à un coût de plusieurs centaines de milliards, en installant les petits réacteurs modulaires, qui est une technologie qui n'a pas encore été déployée dans la vraie vie. Donc on ne sait pas à quel point ça peut marcher ou pas. Même dans ce meilleur des cas-là, on aura maximum 50% de notre électricité en France qui viendra du nucléaire en 2050, sachant qu'aujourd'hui, on est autour de 70-75. Donc même dans le scénario le plus pro-nucléaire, on aura quand même besoin d'autres sources d'énergie que le nucléaire. Et donc comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pour le dire un peu rapidement, d'abord, on gaspille beaucoup l'énergie. Deuxièmement, on a des bâtiments...
Quand vous dites gaspiller, c'est-à-dire qu'individuellement, on le fait pourquoi on gaspille ? Comment on gaspille ? Les gestes qui gaspillent aujourd'hui ?
Alors, il y a des choses de gaspillage, effectivement, individuel, mais le principal gaspillage, il est collectif. Si on prend peut-être une chose qui est un peu anecdotique, mais qu'on voit tous les jours, si vous baladez dans les rues des villes la nuit, vous voyez des magasins allumés.
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est un peu la base, quoi, le tout premier truc à faire.
On appelle la pollution lumineuse, en tout cas, en plus.
Voilà, pollution lumineuse, mais qui, du coup, demande de l'électricité. Et à un moment où on a des risques de coupure d'électricité, ce serait bien que ces magasins-là éteignent la lumière.
Les magasins et les villes, alors, aussi l'éclairage public, peut-être, non ? Ou le revoir, non ?
Oui, tout à
Parce
fait.
Parce que ça doit consommer quand même énormément.
Ça consomme de manière significative. Alors, c'est pas ça la grande part de consommation, mais je prends ça en termes de symbole. C'est-à-dire que même ce petit truc-là, on ne le fait pas collectivement. Il y a heureusement des villes, notamment dans les montagnes, les villes dans les Pyrénées, dans les Alpes, qui ont éteint les lumières, mais ça, c'est pour allumer les étoiles. C'est un autre.
autre chose. C'est plus poétique aussi.
Voilà. Donc, il y a le gaspillage, il y a le fait que nos bâtiments sont extrêmement mal isolés. Il y a le fait ensuite que.
Les entreprises sont ouvertes, allumées toutes les nuits aussi, c'est pareil. Il n'y a pas que les magasins.
Ah oui, il n'y a pas que les
vous
magasins.
Regardez, les grandes entreprises, les immeubles sont allumés partout.
Ou même le bureau où je travaille pour tout vous dire.
Ah bon, d'accord. Voilà. Okay, ça, c'est réglé.
Par ailleurs, par le passé, on n'a pas déployé assez d'énergie renouvelable. On n'a pas assez utilisé l'énergie du vent, l'énergie du soleil, l'énergie des vagues, l'énergie du bois pour nous chauffer, pour produire de l'électricité, etc. Par ailleurs, là, cet hiver, en janvier, là, on a un problème particulier avec les Russes, comme vous le savez. Les Russes fournissent deux fois moins de gaz à nous, Européens, au mois de janvier 2022 qu'ils ne le faisaient l'année dernière. On s'imagine pourquoi.
Pourquoi, alors, pourquoi qu'on explique, oui.
C'est clairement un moyen de pression. C'est-à-dire que jusqu'en septembre-octobre, les Russes disaient non, mais on a des problèmes sur tel gazoduc en Russie, etc. Après, moi, je pensais qu'ils faisaient ça juste pour gagner plus d'argent. Ils sont en situation de monopole, donc du coup, ils baissent la production pour que le prix augmente et qu'ils gagnent plus d'argent. Là, il y a clairement une dimension géopolitique.
Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que s'ils produisent moins de gaz, évidemment, on a moins de gaz, mais on a besoin aussi de gaz pour fabriquer aussi de l'électricité, quoi.
Absolument, et notamment en France en hiver.
Oui, c'est ça. Oui. Ah,
tout à fait. Donc là, enfin, j'ai pas regardé les chiffres avant de venir, mais on a en hiver, on a en gros 10 à 15% de notre électricité en France qui vient du gaz. Donc si jamais on supprimait ça, il y aurait 6 millions de Français.
Oui, alors sur la répartition, ça c'est intéressant. En fait, Thomas Pellerin, Carlin, d'où vient notre électricité alors?
Alors sur l'électricité, en France, on a à peu près 70% de l'électricité qui vient du nucléaire, un petit 10% qui vient du gaz. Et on a encore un tout petit peu de charbon, un tout petit peu de pétrole, et en gros un 20% qui vient des énergies renouvelables, les barrages hydroélectriques des montagnes, mais aussi les barrages au fil de l'eau sur le fleuve du Rhône. On a aussi évidemment les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Mais ça, c'est que l'électricité.
Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait produire en local, par exemple par région ou par département? Est-ce qu'il y a un moyen d'être en autarcie et de produire de l'électricité pour le local?
Alors l'autarcie, c'est possible à une petite échelle, si jamais vous n'avez pas de production industrielle. Donc dans des villages de montagne, dans des îles des Caraïbes ou des îles bretonnes, ça peut être tout à fait bien. Par contre, dès que vous êtes à l'échelle d'une grosse région comme l'Occitanie, ou dès que vous êtes dans un passé industriel comme un Dunkerque ou au Havre, là non, clairement, il faut être connecté au reste du pays et au reste du continent.
Et au reste du monde.
Alors sur l'électricité, on n'est pas vraiment connecté au reste du monde, on est surtout connecté à nos voisins européens. Mais ça, c'est que l'électricité. Après, il y a l'autre volet qui est l'énergie. Typiquement, pour avoir la sorte de grandeur, l'électricité, c'est que un quart de l'énergie qu'on consomme. Les trois autres quarts, c'est pour nous transporter, là c'est principalement du pétrole, c'est pour fabriquer de l'acier, il faut de la chaleur, et ça c'est principalement du charbon, parfois du gaz. Et donc ça, c'est aussi tout un enjeu qui nous amène sur l'enjeu du dérèglement climatique. Et là, il faut articuler le court terme et le long terme. À long terme, si on veut éviter l'effondrement de notre civilisation au XXIe siècle, on doit agir de manière vraiment radicale sur l'enjeu du climat. Sinon, ce sera la catastrophe, voire le chaos.
Mais il y a aussi des embouteillages sur la filière recyclage. On a des problèmes aussi importants là-dessus.
Pas véritablement. On n'a pas en fait suffisamment déployé d'énergie renouvelable à ce stade pour avoir des problèmes sur le recyclage.
Si, chez EDF, les piscines, par exemple.
Ah, pardon, vous parlez des centrales nucléaires, en l'occurrence.
Centrales nucléaires, pardon.
Alors, oui, effectivement, il y a un enjeu sur ça, mais c'est pas un enjeu qui se pose à très court terme. On n'est pas sur un problème qui se pose là pour les semaines à venir, mais effectivement, à moyen terme, c'est un des enjeux. Et d'ailleurs, une des raisons qui fait qu'on a des problèmes aujourd'hui en France sur l'électricité, c'est on a un parc nucléaire vieillissant. Il y a eu un choix des gouvernements par le passé, notamment le gouvernement sous Hollande, sous Sarkozy, de ne pas construire plus de centrales nucléaires, à part le réacteur de Flamanville qui est toujours en construction. Du coup, avec un parc nucléaire vieillissant, effectivement, il est moins fiable.
Allez, on va poursuivre ensemble avec vous. On aura aussi Corinne Lepage, hein, l'ancienne ministre de l'Environnement, présidente de parti Cap Écologie, qui sera avec nous dans un instant. Et on va s'interroger sur comment produire de l'électricité et de l'énergie plus globalement demain. Mais on s'intéresse beaucoup ce matin, en fait, à l'électricité, parce que c'est capital, vous l'avez dit. On peut manquer d'électricité, on risque d'en manquer un petit peu.
Au mois de février.
Et on s'interroge aussi quand on voit les choix des uns et des autres. En Allemagne, qui à un moment donné a arrêté le nucléaire, mais du coup va vers le charbon, s'en remet en fait au gaz aussi, mais il y a moins de gaz. Alors elle s'en remet en fait aux énergies en fait nouvelles, mais est-ce qu'elles pourront fonctionner en permanence?
C'est un vrai
problème. On voit ça dans un instant.
En tout cas, la question, est-ce que vous avez peur de manquer d'électricité un jour en France? Vous dites oui à 75%. Rappelez-nous au 0826 300 300.